Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, ce que la sociologie doit à Pierre Bourdieu. Plus de 15 ans après sa mort, l'auteur de La reproduction, de la distinction, encore de la misère du monde, continue à faire débat. On va évoquer cette figure et surtout ce qu'il a apporté à sa discipline avec un autre sociologue, Marc Joly, qui est notre invité pour son essai Pour Bourdieu, publié au CNRS Éditions. Il sera avec nous après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, pour la première fois, il pose sa caméra ici, en France, où il vit une bonne partie de l'année depuis qu'il est parti du Tchad, dont il est aujourd'hui aussi ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Réalisateur de Bye Bye Africa, consacré à la Mostra de Venise en 1999, de Darat, Saison Sèche en 2006, figure du cinéma tchadien, Mahamat Saleh Haroun est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, en podcast à partir de franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
De l'autre côté de la Méditerranée, il y avait Hissein Habré, une tragédie tchadienne, votre précédent film documentaire sur les victimes du régime d'Hissein Habré. De l'autre, il y a Abbas et une saison en France, en salle ce mercredi. Pas bande-annonce, mais extrait.
Asma, tu gaspilles l'eau. Ça coûte cher, tu sais.
Ça fait 19 mois qu'on est en France. Ma sœur, mon père, Toto Etienne et moi. Nous avons quitté Bangui à cause de la guerre. Au cours de notre fuite, maman a été tuée par les miliciens. À Paris, papa a fait une demande auprès de l'OFPRA. C'est l'Office des Apatrides ou quelque chose comme ça.
Voilà.
Nous avons vu un juge qui nous a posé plein de questions.
Ça ira comme ça.
S'il te plaît, il y a un exercice que je comprends pas.
J'arrive, Yacine. Allez, nettoie-moi ça.
Extrait d'une saison en France, le film de Mahamat Saleh Haroun. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Abéché, N'Djamena, Paris, ça c'est votre trajectoire. Abbas, le héros, le personnage central de votre film, lui a fui Bangui, capitale d'une Centrafrique en guerre avec ses deux enfants pour venir en France. C'est une histoire des migrations à travers la figure du réfugié, des visages et des corps que le cinéma nous montre rarement et que vous aviez envie de montrer aujourd'hui, Mahamat Saleh Haroun.
Oui, absolument, oui. Cette figure du réfugié que je connais assez bien pour l'avoir été moi-même. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre civile, blessé par une balle perdue et tout. Et le traitement qu'on consacre comme ça à la figure, je dirais, du réfugié, me semble injuste, quoi. Et du coup, elle construit un imaginaire qui me semble complètement faux. Et en 2014, quand j'ai lu dans la presse un Tchadien qui s'était immolé à la Cour nationale du droit d'asile pour avoir reçu une réponse négative à sa demande, ça m'a renvoyé à ma propre histoire, parce que quand je suis arrivé en France, j'étais jeune, fringant, j'avais une très haute idée de la France. C'était un peu la patrie de la langue, de ma langue, c'est-à-dire le français, et on m'a refusé cette demande-là. Et j'ai acheté un billet d'avion et je comptais partir. Heureusement pour moi, il y avait un homme politique tchadien qui lui était réfugié et il m'a dit « Non, Haroun, tu vas pas partir, tu vas rester là ». Et il a trouvé le moyen de m'obtenir un visa par ses propres réseaux. Et ça m'a permis de rester en France, quoi. Donc, j'ai fait des enquêtes et je me suis rapproché de quelques réfugiés. Et je me suis dit qu'il fallait raconter leur intimité, qu'il fallait leur donner un visage. C'est pas seulement un flot humain, c'est pas seulement des multitudes comme ça, des hordes qui traversent la Méditerranée, qui arpentent les montagnes. C'est des histoires, c'est des tragédies, c'est des destins, c'est des sensibilités. Et j'ai voulu, rendre hommage, en fait,
Et ce ne sont pas non plus que des morts, ce sont aussi des vivants pour ceux qui survivent, notamment à la traversée périlleuse de la Méditerranée. Il y a une vie après, et c'est cette vie-là que vous nous racontez. Une fois arrivé en France, quel est le parcours du combattant pour la plupart de ceux qui parviennent à faire cette traversée?
Le parcours du combattant, c'est déjà de pouvoir déposer une demande. Maintenant, c'est presque, on peut le voir partout, des réfugiés qui vont passer la nuit devant les bureaux où ils espèrent pouvoir déposer leur demande. Une fois que vous avez déposé une demande, il va falloir attendre. C'est un temps d'inertie qui est imposé comme ça. Il faut attendre pour avoir une réponse. Une fois que, si la réponse est négative, vous avez la possibilité de faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et là aussi, alors, il faut attendre. Il faut passer une audition auprès des juges de l'asile. Et là, j'étais moi à Montreuil, à la Cour nationale du droit d'asile, et j'ai vu des gens mais tomber en syncope parce que leur demande a été refusée. Et tenez-vous bien que à la Cour nationale du droit d'asile, chaque semaine, il y a des interventions, 2 à 3 interventions de pompiers qui viennent ramasser des gens qui n'en peuvent plus parce que, voilà, ils craquent, ils tombent, ils sont mal. Et ça, je l'ai vu, et je me dis que ça mérite quand même qu'on montre cette réalité-là au quotidien, plutôt que de parler de les migrants, ils, en fait. Et on ne les singularise pas. Moi, je voulais un peu poser un regard humain, les inclure dans une humanité, quoi, voilà.
Et c'est intéressant la manière dont vous filmez cette réalité, celle de ce parcours du combattant, contrairement à Ken Loach, par exemple, dans Moi, Daniel Blake, Palme d'Or à Cannes en 2016, qui filme le dialogue de sourds du demandeur d'emploi confronté à une administration kafkaïenne. Mmh. Vous n'avez pas choisi d'incarner cette administration, qu'elle soit effectivement celle de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile française. Je ne sais pas si c'était un souhait de la déshumaniser ou de l'anonymiser, quelque part, pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette salle d'attente de la Cour nationale du droit d'asile, vous filmez les visages, en revanche, de très près, ceux des demandeurs qui attendent d'être fixés sur leur sort. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous dit, cette succession de visages, aussi sur cette loterie, peut-être, qu'est la vie, hein.
Oui, voilà, une sorte de loterie, et du coup, l'arbitraire qui en découle, ce sont des gens, c'est aussi leur angoisse, cette espèce d'attente comme s'ils avaient passé un examen, et cette espèce d'incertitude par rapport à votre propre histoire et votre propre mémoire. C'est-à-dire qu'il y a une administration complètement anonyme qui soudain vous fait douter de la souffrance que vous avez subie. Parce qu'on doute de votre parole, de votre histoire, du récit que vous faites de ce que vous avez traversé comme épreuve. Et donc voilà, c'est cette espèce de solitude en réalité. Chacun est dans sa solitude et dans un questionnement. Est-ce que mon histoire va paraître crédible? On en arrive à ça, en fait. Est-ce qu'elle est crédible ou pas? Et on est poussé par moments à rajouter des choses en se disant que ça sera peut-être beaucoup plus crédible que cela. Je voulais en effet montrer cela, et c'est l'humanité de ces gens contre la... C'est pas seulement l'anonymat, mais c'est ce côté inhumain de l'administration, en réalité, qui traite des dossiers qui n'a pas d'affect. C'est le propre de toute administration, qu'elle soit judiciaire, enfin la sécurité sociale. À un moment donné, on ne parle pas à des êtres humains, on traite des dossiers. Et moi, ça ne m'intéressait pas, si vous voulez, de montrer ce visage-là pour dire qu'il y a des mauvais et qu'il y a des bons et des méchants. Enfin, ça ne m'intéresse pas, ce cinéma qui consiste à dire qu'il y a des bons qu'on doit défendre et des mauvais. Je pense que ça, c'est un peu mon côté jésuite, que tout homme est perfectible. Et je ne voulais pas montrer non plus des fonctionnaires derrière des guichets pour en faire des méchants, parce qu'ils ne sont pas responsables de la machine administrative.
Alors que, voilà, de l'autre côté, on passe nos journées à distinguer justement le bon réfugié du mauvais réfugié. C'est aussi ce tri que fait cette machine un peu anonyme. Oui. Et c'est ça qui est aussi intéressant à travers ce que vous montrez. C'est que vous montrez que les critères sont somme toute assez opaques, oui, de ce qui fait que la France va se dresser comme une terre d'accueil ou pas pour certains, oui, qui en font la demande. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée, vous, en France, au début des années 80? Est-ce que la situation aujourd'hui vous semble très différente?
Oui, elle semble très différente parce que, en plus de 30 ans, il y a, me semble-t-il, une focalisation sur le problème, en fait, de l'immigration, donc des migrants, des réfugiés. Pour tout dire, c'est la construction de la figure de l'étranger par le discours politique d'un côté, mais aussi par un certain type de cinéma. Discours politique, c'est quand même des voix très autorisées, que ce soit François Mitterrand qui a parlé de seuil de tolérance, Jacques Chirac, tout le monde se souvient du bruit et de l'odeur, Michel Rocard qui est devenu un peu la référence maintenant, cette citation-là, tout le monde nous la convoque comme si elle c'était la vérité première, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on arrive à un point culminant où, en fait, un imaginaire a été forgé sur plus de 3 décennies. Et du coup, le regard, en fait, sur l'autre, il est biaisé complètement, d'autant plus que le cinéma a donné une certaine représentation aussi de la figure de l'étranger qui n'aide pas, en fait, à avoir un regard assez clair et juste.
Quel cinéma ? À quel film vous pensez, par exemple ?
Je pense à pas mal de films. Voyez un film, alors c'est pas seulement une question de couleur, mais voyez un film comme Harry, un ami qui vous veut du bien. C'est une famille tranquille, française, heureuse, à la campagne, et vous avez quelqu'un qui arrive, mais on sait tous que cet accent-là, il est étranger à la France. C'est un accent espagnol, c'est une étrangeté qui entre là, et c'est un être inquiétant et tout. Vous avez... intouchable, quand vous avez ce plan où il y a que des blancs qui attendent et vous avez un noir qui entre, vous montrez cette image, ce plan partout, l'étrangeté du bonhomme, elle est là. Et après coup, il est doublement étranger. Non seulement c'est un noir qui arrive là, mais c'est en plus quelqu'un qui ne ignore, qui ne fait pas la différence, qui ne sait pas qui est Mozart. Il pense que c'est la cité qui se trouve. Donc la figure de l'étranger, ça a toujours été ça dans toutes les sociétés. Au Tchad, nous, on a la figure de l'étranger. Ça participe. Il faut charger parce que c'est le bouc émissaire. Et donc il n'est pas seulement dangereux, inquiétant. Il est inculte aussi. Donc c'est des films comme ça. Mais je peux en citer plusieurs.
Et Abbas, ce n'est pas la figure de l'étranger dans votre caméra, c'est la figure de l'altérité, peut-être, tout simplement, ou d'une humanité commune.
Absolument,
ce qu'on retrouve dans votre film Une saison en France, Mahamat Saleh Haroun. La Centrafrique est une fiction, l'Afrique est une fiction, dit Étienne, qui est l'un des deux personnages du film, Tonton Étienne, mais qui n'est pas réellement le frère d'Abbas, qui était lui prof de philo en Centrafrique avant de venir, tandis que Abbas, votre personnage principal, était prof de français. C'est un cinéma inspiré du réel, le vôtre, et c'est intéressant ce rapport entre ce pays qui est devenu à vos yeux une fiction, cette réalité dont vous rendez compte à travers la fiction. Abderrahmane Sissako, qui est le réalisateur de Timbuktu et de Bamako, et qui est aussi un producteur mauritanien qui a produit l'un de vos films d'Arat, Saison Sèche, était invité de la Grande Table en mars dernier sur cette responsabilité du cinéaste, sur la fonction du cinéma. Écoutez ce qu'il disait.
Non, je pense pas qu'un film a pour fonction, a une fonction précise. Non, un film, c'est comme, c'est un accouchement, hein, c'est quelque chose. Et après, il devient ou il devient pas, c'est ça. Il peut pas avoir une mission de changer ou de transformer, mais quand même, une des missions premières, c'est pour moi, en tout cas, qui le fait, c'est de faire partie du cri ou de la révolte. De me positionner en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, contemporain de ce qui se passe autour de moi, et de dire non à la barbarie, quelle que soit la forme de cette barbarie.
Sur le rapport fiction-réalité, où se place le cinéaste, vous vous dites comme Abderrahmane Sissako, vous voulez faire partie du cri.
Oui, enfin, on est, je pense que même si le cinéma n'a pas une mission, il a une fonction parce que je pense qu'il fabrique des souvenirs, comme disait Godard, et par conséquent, les souvenirs sont ineffaçables, et donc on construit un imaginaire. Je pense que c'est une représentation du monde, et en cela, ça demande quand même une approche éthique et morale. Et cette, ne serait-ce que ces deux, vraiment ces deux choses sont importantes, ces deux piliers nous obligent quand même à une forme de mission. Et il me semble qu'on est un peu comme des vigies et on ne peut pas ne pas s'indigner par rapport à certaines choses.
Il fabrique des souvenirs, vous êtes des vigies par rapport au présent, il y a cette idée d'alerter, mais c'est aussi une fonction d'imagination, de prévision de l'avenir, parce que c'est aussi ce qui est marquant dans votre film, Une saison en France, c'est que cette famille, elle est privée d'avenir, elle est condamnée à un certain présentisme, elle est condamnée à ce quotidien qu'il faut gérer, dans lequel il faut survivre, et c'est impossible de se projeter. Donc, quelque part, à travers vos images, il y a peut-être aussi cette envie d'aider les générations futures, mais peut-être, ou déjà celles actuelles, à se projeter vers un avenir qui est encore très incertain, très trouble.
Absolument, oui, ça me semble important de se construire un horizon, de se forger des utopies. Il me semble que c'est très très important, c'est des mots qui disparaissent et c'est pas bon signe, je pense, pour l'humanité quand on ne parle pas de ces choses-là. Il me semble qu'il est important, en effet, et c'est des personnages dans le film qui sont... on leur fait injonction de vivre en fait au jour le jour et donc avec l'impossibilité de construire en effet un avenir. C'est toute c'est tout le challenge en fait de gens comme ça qui sont dans des passages, des lieux de passage qui sont dans un temps comme ça en suspens, ils sont en sursis et la construction de l'avenir se fait en réalité par la mémoire, par les traces qu'ils posent à un moment donné. Et cette mémoire-là, à un moment donné, quelqu'un la prend en charge, et c'est Carole à la fin du film. Et c'est peut-être ça qui est la construction de ce futur-là. C'est comment partager une mémoire qui, par essence, en réalité, est éternelle tant que les gens qui la partagent, en fait, sont toujours vivants. Et une mémoire, on finit toujours par la transmettre.
Carole qui est l'amoureuse de Abbas et qui est interprétée par Sandrine Bonner. Bibi Tango qui est musicien dans la vie, complice du professeur Inlassable sur scène et qui joue ici Étienne. Oui. Et puis Éric Ebouané qui est un acteur français qu'on a vu dans Femme fatale de Brian De Palma ou Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Et oui quand même, ou 35 Roms de Claire Denis et qui est Abbas, votre acteur principal donc dans ce film Une saison en France. Vous disiez de jour en jour, c'est un film aussi sur l'attente d'un statut, d'une reconnaissance, d'une existence. Et on voit dans votre film que le temps judiciaire n'est pas du tout celui de la réalité, du réel, du quotidien. Ils vivent tous, Abbas et ses enfants, entre deux, dans une sorte de zone grise, ce jour le jour, dans l'attente d'une réponse positive à la demande d'asile. Il y a entre tout ça la scolarité des enfants, le travail, la question du couple mixte. Une saison en France aborde toutes ces questions. Bande annonce.
Asma, tu gaspilles l'eau. Ça coûte cher, tu sais.
Les enfants, il faut que je vous dise quelque chose.
Ah non, on va pas encore changer d'appartement.
Si. Ça, c'est provisoire. Un jour, chacun aura sa grande chambre.
Tu le jures?
Ouais.
Voilà, ça fera 5 euros, madame.
Merci, au revoir.
Qu'est-ce qu'il avait resté planté là, il draguait?
C'est bien, ça fait des clients en plus.
Ça fait des clients en plus. Mais dis donc, tu te prends pour qui, toi?
J'ai reçu du courrier pour toi.
Encore?
Ouais. On va te recommander.
Monsieur Mahadjir est obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour être conduit d'office à destination du pays dont il détient la nationalité. Je sais, je tiens beaucoup à toi, moi aussi.
Il n'y a plus de place pour des gens comme nous en France. Il faut partir.
Et où veux-tu qu'on aille, Abbas?
Moi, je reste ici.
Et papa, il dort où?
Avec moi?
Aider au séjour irrégulier d'un étranger passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros.
Je veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi.
Yagawe, Wenenge, Kamolango, Wenenge.
Je cherche l'homme que j'aime.
T'arabandonato mona sewakwe.
une saison en France. Votre film, Mahamat Saleh Haroun, en salle mercredi, un film qui interroge aussi la figure du père, ici exemplaire et pourtant malmené par la situation qui se fissure jour après jour. Cette figure du père que vous avez déjà beaucoup travaillé dans vos films, comme dans Abouna, film sorti en 2002, qui interroge aussi la question de la transmission, mais celle aussi de nos valeurs, celles qui font société, notamment ces valeurs chrétiennes, symbolisées par cette croix accrochée dans une chambre que Abbas souloue à un moment, celle mise en avant par des pays d'accueil comme la France et qui questionne l'hospitalité. Vous aviez emprunté à Aimé Césaire le titre de votre film précédent, Un homme qui crie, prix du jury à Cannes en 2010. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, disait Aimé Césaire ou écrivait Aimé Césaire. Une saison en France est inspirée du titre du recueil de Rimbaud, Une saison en enfer.
Oui, on
ça n'a pas été choisi.
Oui, si c'est pas un hasard parce que oui, c'est évident et c'est vous savez dans une saison en France, il y a cette comptine au début et il y a aussi la comptine que chante Carole à un moment donné et c'est cette espèce de passé qui mais qui se perd, cette espèce de paradis perdu. Et si je devais lire un extrait de...
On vous a retrouvé l'ouverture d'une saison en enfer de Rimbaud. Écoutez, et si vous pouvez nous lire les premières lignes.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. On peut, en effet, ça peut être mis en exergue, je pense, d'une saison en France. C'est cette espèce de paradis perdu. Et on essaye de retrouver ou de reconstruire, en fait, tout ce qu'on a... On n'a pas perdu, parce que la vie, me semble-t-il, et mon cinéma, c'est les parts de nous-mêmes, en fait, dont on est délesté, et qui deviennent nos tragédies intérieures, et je raconte seulement ça. Que en permanence, on continue d'avancer en perdant des petits bouts de soi.
Et ça passe à travers une langue que vous affectionnez, décrétée grande cause nationale ou cause nationale tout court par Emmanuel Macron, souhaitée cool par sa nouvelle conseillère Leïla Slimani, voulue agissante par l'écrivaine Véronique Tadjo, que nous recevrons ce jeudi. La francophonie, c'est d'abord pour vous le rayonnement d'une langue qui fait lien entre les hommes malgré les distances géographiques.
Absolument, je pense que c'est cette patrie qui nous unit tous, c'est cette langue qu'on a en partage et qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression en fait de faire communauté. Et je crois que Étienne, vous savez, il y avait Étienne de la Boétie et mon personnage d'Étienne, à un moment donné, le livre qui l'accompagne, c'est Montaigne. Et voilà, et c'est cette mémoire-là dont nous sommes porteurs. Et parfois, il nous arrive peut-être de nous tromper. Il y a beaucoup, me semble-t-il, dans cette francophonie-là, des rendez-vous manqués. On devrait être un peu plus solidaires. C'est ce qui me manque parfois. On devrait être beaucoup plus, oui, fraternel. Ouais. Mais parfois, la politique au sens premier, la politique politicienne, prend le pas et c'est un peu dommage.
France Culture avec le réalisateur Mahamat Saleh Haroun. On a choisi pour vous quelques notes de Dings Blues de Barbara Hendricks qui sera en concert le 31 janvier à Nantes dans le cadre de la 24e édition des Folles Journées.
If I had wings like nose dove, I'd fly across the river to the one I love. Farewell, my heart.
Alex en concert donc le 31 janvier à Nantes, festival de musique, les folles journées sur le thème cette année de Vers un monde nouveau. Voilà qui fait aussi une autre évocation à votre film, une saison en France, Mahamat Saleh Haroun, avec la mise à l'honneur de compositeurs en exil, essentiellement des œuvres du 20e, dont celle de Rachmaninov, jusqu'aux musiques klezmer aujourd'hui. Dans la lignée de s'emprunt en Espagne, d'écrivains comme Mario Vargas Llosa au Pérou, du musicien Gilberto Gil au Brésil ou encore du cinéaste Raoul Peck en Haïti, vous avez répondu, vous, à l'appel du président Déby qui vous a proposé le ministère de la Culture et du Tourisme au Tchad. Une réponse quelque part à ceux qui vous reprochent peut-être de céder aux sirènes du pouvoir, ce serait peut-être de rappeler l'importance aujourd'hui encore que peuvent prendre des artistes quand ils décident de s'attacher à des responsabilités politiques pour leur pays. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ?
J'ai fait ce choix pour tendre la main, comme cela a toujours existé en fait pour moi. Il s'est toujours trouvé quelqu'un à un moment donné qui a voulu me tendre la main pour m'aider à faire ou monter une marche. Et étant un peu l'aîné de la famille là-bas, je me devais tout simplement d'apporter peut-être une quelconque aide en fait à toutes les générations, tous ces jeunes qui en fait n'arrêtent pas de me demander depuis des années de faire quelque chose. Et si en ayant en fait un poste de ministre, je pouvais apporter quelque chose, que cette histoire du cinéma tchadien qui n'existe pratiquement pas puisque on n'est pas nombreux, que d'autres vents que moi puissent en fait continuer à souffler et que dans ce studio d'autres cinéastes tchadiens puissent venir, c'est pour ça que je l'ai fait.
Malgré l'austérité qui frappe le pays, il y a des projets qu'il vous semble urgent de développer et que vous arrivez à mettre en place aujourd'hui au Tchad ?
Oui, on a pu mettre en place le mois du livre et de la lecture au mois de novembre dernier. On a pu équiper la bibliothèque qui n'avait pas un seul ouvrage. Gallimard a bien voulu nous offrir 3000 ouvrages et il y a ce projet d'école de cinéma auquel je tiens beaucoup parce que ça pourrait, je pense, apporter quelque chose de formidable, que des jeunes apprennent l'art du récit visuel et qu'ils commencent à donner une représentation de leur pays avec ces trois postes importants, réalisation, photo et montage. Voilà, parce que...
Et une saison en France est déjà sortie au Tchad ou il sort d'abord en France ?
Non, il sort d'abord en France et on ira le présenter sans doute avec Sandrine Bonner qui va l'accompagner, avec aussi le film de Raymond Depardon, La captive du désert, qui parle donc d'une histoire tchadienne, ou en tout cas inspirée de l'histoire de Madame Claustre. Donc voilà, ça sera au mois de mars et on m'a proposé de le faire pendant la Semaine nationale de la femme. Et Sandrine Bonner viendra nous parler un peu de sa vie d'actrice française. Et on l'attend vraiment avec beaucoup d'impatience là-bas.
Un film à voir, une saison en France, c'est votre film, Mahamat Saleh Haroun. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Merci mille fois.